et on s'aimera encore lorsque l'amour sera mort.
Tu vas louper le début, mais c'est pas une heure pour prendre ta douche.
Et c'est sur l'autre radio.
Un des remèdes à l'insomnie, pour moi, c'est la lecture, quelque chose qui nous permet de plonger dans des mondes qui ne sont pas les nôtres, de faire des voyages que l'on n'aurait jamais fait et de rencontrer des personnages que l'on n'aurait jamais croisés sur notre route. Je parle d'insomnie, mais cette porte que l'on ouvre quand on ouvre un livre, c'est une expérience, un temps que je vous conseille de prendre bien au-delà de ça. Certains sont déjà des convaincus et d'autres encore à convaincre. Justement, mes invités aujourd'hui vont nous parler du programme Lire et Faire Lire, un programme national d'ouverture à la lecture et de solidarité intergénérationnelle. Et donc pour bien en parler, pour mieux en parler, vous êtes avec moi Céline Rondeau-Gardy de l'UDAF de la Mayenne. Bonjour, merci d'être à mes côtés. Et donc à côté de vous, dans ce studio un peu froid, se trouve Charlène Mur de la Ligue de l'Enseignement. Et ensemble, vous allez nous dire toutes les deux de quoi est-ce qu'il s'agit. Bonjour Charlène.
Bonjour.
Dans la seconde partie de cette émission, je vous emmène avec moi à Saint-Ouen-des-Toits, à la ferme La Grande Gaudrie. C'est là qu'a été organisée la rencontre annuelle du syndicat agricole La Confédération Paysanne avec les élus locaux. Ça a été l'occasion de revenir sur leurs principales préoccupations qu'ils ont pu ensuite exprimer à notre micro. Et alors cette émission se termine en douceur, en beauté, en balade avec notre chroniqueur Donatien. Et comme chaque mardi, eh bien, il y aura la lecture de l'auditeur au milieu de cette interview. Mais je le disais, je suis en bonne compagnie puisque je suis avec Céline Rondeau-Gardy. Vous êtes chargée de mission à l'UDAF de la Mayenne et donc Charlène Mur, responsable du service culture de la Ligue de l'Enseignement. Et donc toutes les deux, vous êtes coordinatrice du programme Lire et Faire Lire, dont on va parler aujourd'hui. Je le disais tout à l'heure, c'est un programme national. Exactement, qu'est-ce que c'est? Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer?
Eh bien, d'abord, félicitations pour cette introduction, parce que quelle belle introduction pour ouvrir les portes de Lire et Faire Lire. Eh bien, Lire et Faire Lire, c'est l'idée de ce programme. Ça a été créé par Alexandre Jardin et Pascal Guéné. On va fêter les 25 ans avec cette idée toute simple, mais qui est de multiplier des propositions de lecture à voix haute pour des petits groupes d'enfants. En se disant qu'en multipliant ces propositions-là, en créant des bulles de lecture, eh bien, c'était une bonne manière d'emmener les enfants, comme vous le disiez tout à l'heure, dans le monde de l'imaginaire, d'ouvrir des portes et de leur donner envie de devenir des lecteurs. Et donc, cette idée toute simple a fait que, au niveau national, les ligues et les UDAF ont été invités à pouvoir développer ce programme sur les départements. Nous, en Mayenne, depuis le début, on est dans cette aventure-là. Et aujourd'hui, on a à peu près 190 bénévoles qui interviennent en tant que lecteurs à voix haute d'histoires qu'ils ont préparées, qu'ils ont choisies, avec cette idée d'emmener des enfants en voyage et de leur donner envie de lire. Donc, lire et faire lire, pas le faire lire, c'est-à-dire au sens strict du terme, on va leur apprendre à lire, mais faire lire dans l'idée d'inviter ces enfants, par cette expérience vécue, à devenir eux-mêmes des lecteurs. Et ça fonctionne.
Et alors, on parle beaucoup d'intergénérationnel. En quoi c'est important? Quel impact concret vous pouvez voir sur ce type d'échange entre ces deux générations?
Donc, en fait, nos bénévoles ont tous plus de 50 ans. Ça fait partie des critères de sélection, en fait. Et l'idée, c'est de leur proposer d'être en relation avec des petits entre 0 et 12 ans. Et on trouve ça beau, en fait, ce décalage des générations, cette rencontre entre des plus âgés et des plus jeunes. Et ça marche très, très bien. On les appelle les mamies lecture.
Et les papis.
Et les papis. On a un petit peu de papis aussi parmi les lecteurs.
Et donc, on peut imaginer deux générations comme ça qui se croisent, qui est presque un fossé parfois. Et en fait, finalement, ce croisement se fait bien, c'est assez fluide.
Ça se passe même très bien. Ça se passe très bien parce qu'il y a un plaisir partagé à se rencontrer. Là où, des fois, on n'a pas toujours ses papis et mamies à proximité parce que les vies d'aujourd'hui font qu'on peut être amené à s'éloigner pour le travail, en tout cas les parents. Et donc, et de la même manière, ces bénévoles n'ont pas toujours leurs petits-enfants non plus à proximité. Et d'aller lire à voix haute avec ce programme, ça leur permet de rentrer en contact avec ces jeunes enfants. Et ils ont un attachement particulier à cet âge-là, parce que les bénévoles qui sont dans le réseau de Lire et Faire Lire, ils aiment les enfants. Enfin, dans le sens où il y a une vraie croyance que c'est de cette rencontre et de l'intérêt de cette rencontre. Il se passe des choses assez magiques. Et puis derrière, eh bien, quand on installe Lire et faire lire sur un territoire où des bénévoles vont lire dans une petite école en milieu rural à des enfants, eh bien, ce que ça génère derrière, c'est quand on se balade dans la rue le week-end ou qu'on va à la boulangerie, eh bien, ces enfants qui sont avec leurs parents, ils rencontrent ce bénévole lecteur qui dit « Ah, mais c'est le monsieur et la dame qui vient lire à l'école. » Et là, ça crée du lien. Et c'est ça, c'est aussi le lien intergénérationnel et puis le lien dans la cité aussi derrière, avec des croisements de générations qui s'opèrent grâce à cette initiative. Encore une fois, c'est une idée qui paraît toute simple, mais qui produit plein d'effets. Et celui de la rencontre intergénérationnelle est drôlement intéressant.
Est-ce que vous pouvez nous rappeler justement dans quel cadre est-ce que ça se passe, ces rencontres-là ?
Donc en fait, les bénévoles interviennent dans tout type de structure éducative. Donc ça commence dès la crèche, les multi-accueils, etc., les écoles maternelles, élémentaires, dans les maisons de quartier, les bibliothèques, sur temps périscolaire, dans les centres de loisirs, voilà, dans tout type de structure.
On entend souvent que les enfants sont peut-être moins curieux, ont peut-être un peu moins d'appétence pour la lecture avec la place des écrans aujourd'hui. Est-ce que vous constatez une certaine vérité là-dedans, ou finalement est-ce qu'il y a peut-être une évolution aussi dans la manière de consommer ? Par exemple, on a aussi une explosion aujourd'hui du livre audio.
Alors, c'est vrai que au sein de la structure familiale, la place de l'écran prend énormément de place. Après, nous, on défend corps et âme la place du livre et cet objet magique qu'on peut tourner, feuilleter, poser, reprendre, etc. Et la lecture, elle fait partie des fondamentaux de l'école. Et pour nous, voilà, c'est vraiment, on défend l'objet livre un peu mordicus, voilà.
Et puis complètement, enfin voilà. Et puis il y a aussi dans ce que nous redisent tous ces bénévoles qui, eux, arrivent avec des livres sous le bras ou des livres dans le sac qu'ils ont cachés d'ailleurs, parce qu'il faut garder l'effet de surprise. Donc, qu'est-ce que le bénévole a préparé ? Qu'est-ce qu'il a dans son sac ? Et qu'en fait, à chaque fois, il y a un attrait qui n'est jamais contredit, c'est-à-dire que les enfants attendent ces moments-là. Ils attendent qu'il y ait un vrai plaisir à écouter des lectures à voix haute, à découvrir des auteurs et des illustrateurs. Et je tiens, parce que la littérature jeunesse, elle a aussi cette poésie, cette beauté, où on a beaucoup d'illustrations. Et quand on va à la rencontre d'un livre, on va à la rencontre d'un auteur, on va à la rencontre d'un illustrateur, on va à la rencontre d'une histoire, on va à la rencontre de personnages, effectivement. Et que ça marche super bien. Il faut faire cette proposition. Il faut faire cette proposition. C'est vrai que lire à voix haute, ça suppose aussi prendre un temps, se poser, choisir un livre, s'installer. La lecture du soir, vous parliez de la lecture avant de dormir, mais la lecture du soir, on voit bien que les enfants sont très preneurs de ces moments-là. Donc, le livre garde cette place-là.
Oui, ça reste un objet.
Et puis, dans la lecture à voix haute, la lecture partagée, il y a aussi l'idée du tiers qui vient là et la présence de l'autre à ses côtés. Et ça, c'est quand même ce qui nous nourrit tous, le lien.
Charlène, vous vouliez ajouter quelque chose ?
Oui, eh bien, dans certaines familles, des enfants peuvent être... justement ne peuvent pas bénéficier en fait de lecture au sein de leur famille, la lecture du soir comme tu le disais Céline, et justement là lire et faire lire a toute sa place pour ces enfants qui ne bénéficient pas d'ouverture à la lecture, quoi.
Je pense aux différences, on parlait des différences de génération, mais aussi des différences de milieu culturel et différences sociales. C'est aussi une rencontre entre différents mondes, si on peut l'appeler comme ça, c'est un peu grossier peut-être, mais vous voyez ce que je veux dire. C'est aussi une rencontre intéressante qui se passe à ce moment-là par le biais de la lecture.
Bien sûr. Et puis, quand on intervient dans les écoles, on intervient auprès de tous les enfants. Et ça, c'est le livre qui nous rassemble. Et ça, c'est ce qui est la richesse aussi de ce programme. Nous, on intervient beaucoup sur temps scolaire. Charlène a énuméré tout à l'heure toutes les structures avec lesquelles on peut monter des projets. Alors, d'abord, c'est des structures quand elles souhaitent que les bénévoles viennent, c'est-à-dire qu'elles mettent la lecture. Enfin, alors, même si celles qui ne font pas appel à lire et faire lire, je ne veux pas dire qu'elles ne le font pas. Hein, ce n'est pas du tout mon propos. Mais en tout cas, là, y a cette envie, cette confiance aussi de faire appel à l'intergénérationnel pour venir proposer encore plus, j'ai envie de dire plutôt ça, encore plus de lectures à voix haute. Mais quand on intervient dans les écoles, on intervient partout, auprès de tous les enfants. C'est l'avantage, c'est que tous les enfants peuvent bénéficier de ces propositions.
Et on intervient en milieu rural, mais aussi dans les quartiers prioritaires de la ville de Laval. Voilà.
C'est important de le
préciser. Et c'est là que prend tout son sens lire et faire lire, d'après moi.
On parle de lecture dans cette émission et l'on dit que la lecture est quelque chose qui se partage. C'est un peu ce que nous raconte cette séquence qui revient chaque semaine dans l'AJT, où un auditeur nous fait la lecture de quelque chose qui compte.
Dans ma vie, le centre du monde, c'est l'amour.
Mon record, c'est Les jeunes filles de Monterland que j'ai lu plus de 100 fois.
J'ai fait semblant plein de fois de discuter avec des gens en disant « Ouais, putain, j'ai les quand même, ça, c'est... » Mais en fait, j'ai pas...
Il y a des pages entières qui me hantent, des déclarations d'amour dont je me souviendrai toujours.
On n'a pas trouvé un nom tout de suite à cette séquence. Ce moment est simple et beau, et c'est la lecture de l'auditeur.
Vous écoutez l'agité du local.
Et donc, pour la lecture d'aujourd'hui, l'auditeur s'appelle Thibaut. Qu'est-ce que tu vas nous lire ?
La honte d'Anne Mirno.
On t'écoute.
Mon père a voulu tuer ma mère un dimanche de juin, au début de l'après-midi. J'étais allé à la messe de midi moins le quart, comme d'habitude. J'avais dû rapporter des gâteaux du pâtissier installé dans la cité commerciale, un ensemble de bâtiments provisoires édifiés après la guerre, en attendant l'achèvement de la reconstruction. En rentrant, j'ai enlevé mes affaires du dimanche et enfilé une robe se lavant facilement. Une fois les clients partis, les volets ajustés sur la devanture de l'épicerie, nous avons mangé, sans doute la radio allumée, parce qu'à cette heure-là, c'est une émission humoristique, Le Tribunal, avec Yves Deniau dans le rôle d'un lampiste accusé, continuellement de méfaits dérisoires et condamné à des peines ridicules par un juge à la voix chevrotante. Ma mère était de mauvaise humeur. La dispute qu'elle avait entreprise avec mon père, sitôt assis, n'avait cessé durant tout le repas. La vaisselle débarrassée, la toile cirée essuyée, elle a continué d'adresser des reproches à mon père, entrant dans la cuisine, minuscule, coincée entre le café, l'épicerie et l'escalier menant à l'étage. Comme à chaque fois qu'elle était contrariée, mon père était resté assis sur la table, sans répondre, la tête tournée vers la fenêtre. D'un seul coup, il s'est mis à trembler convulsivement et à souffler. Il s'est levé et je l'ai vu empoigner ma mère, la traîner dans le café en criant avec une voix rauque, inconnue. Je me suis sauvé à l'étage et je me suis jeté sur mon lit, la tête dans un coussin. Puis j'ai entendu ma mère hurler « Ma fille !» Sa voix venait de la cave, à côté du café. Je me suis précipité au bas de l'escalier, j'appelais « Au secours !» de toutes mes forces. Dans la cave mal éclairée, mon père a grippé ma mère par les épaules ou le cou. Dans son autre main, il tenait la serpe à couper le bois qu'il avait arraché au billot où elle était ordinairement plantée. Je me souviens plus ici que de sanglots et de cris. Ensuite, nous nous trouvons de nouveau tous les trois dans la cuisine. Mon père est assis près de la fenêtre, ma mère est restée debout près de la cuisinière et je suis assise en bas de l'escalier. Je pleure sans pouvoir m'arrêter. Mon père n'était pas redevenu normal, ses mains tremblaient et il avait sa voix inconnue. Il répétait « Pourquoi tu pleures? Je ne t'ai rien fait à toi. » Je me rappelle une phrase que j'ai eue. Tu vas me faire gagner malheur. Ma mère disait, allons, c'est fini.
Merci Thibaut. Pourquoi est-ce que tu as choisi cet extrait de La honte de Annie Arnaud ?
J'ai choisi cet extrait parce qu'il a été écrit il y a à peu près 70 ans et que malheureusement, c'est des situations qui se reproduisent encore et que la honte n'a pas changé de camp.
Eh bien, merci pour le partage de ce texte. Merci beaucoup. Et donc, on est de retour dans l'agité du local sur l'autre radio 107.9 à Château-Gontier et 101.7 à Laval. On reprend cet entretien autour de la lecture et plus précisément du programme Lire et faire lire avec Céline Rondeau-Gardy de l'UDAF et Charlène Mur de la Ligue de l'Enseignement. On parle de lecture, mais alors pour ce programme, on parle aussi donc de lecture à voix haute. Ça apporte quelque chose en plus par rapport à cette lecture un peu intime et individuelle qu'on peut avoir de soi à soi.
Eh bien, oui, dans le sens où quand on est auditeur... Alors déjà, quand on fait la lecture de soi à soi, en général, alors, sauf si on relit, on découvre le texte en même temps que la lecture qu'on est en train de faire. Dans l'exercice de lire et faire lire, où on est auditeur, ce qu'on va entendre, c'est une lecture qui a été préparée. Avec une attention particulière pour embarquer l'auditeur dans ce voyage, c'est qu'on va la préparer pour avoir la bonne intonation, pour faire attention à la ponctuation, pour faire attention à tous ces silences aussi qui sont inscrits dans le texte, mais qui permettent de donner le rythme à ce que l'auteur a voulu faire passer. Et donc ça change ça. Très vite, on se retrouve avec les images qui défilent et portées par la voix de l'autre. Donc il y a aussi du lecteur dans la proposition de lecture qui est faite, parce qu'un même texte lu par plusieurs personnes, alors même si les mots ne changent pas, n'empêche qu'il
y a une interprétation.
Il y a une forme d'interprétation qui est donnée. Et donc oui, je pense que ça change quelque chose de se retrouver auditeur d'une lecture à voix haute qui a été préparée.
On parle d'imaginaire quand on parle de lecture. Finalement, c'est un apprentissage de l'imaginaire, de se créer soi-même son propre imaginaire. Mais je pense que ça a également un impact dans le développement émotionnel de l'enfant quand on apprend à mettre des mots sur les émotions de personnages, par exemple. Je pense qu'on peut se raconter aussi soi-même peut-être un peu plus facilement après.
Bah, ouais, je crois que vous avez tout dit. Tu veux rajouter ?
Oui, en fait, ça sert à grandir, ça sert à s'élever, ça sert à comprendre le monde. Et donc, à travers la littérature de jeunesse, il y a plein de thématiques sensibles qui sont abordées, comme le deuil, la séparation, la guerre, etc. Donc c'est vraiment une façon de s'ouvrir au monde, de s'ouvrir aux complexités du monde et à l'imaginaire, bien sûr.
Mmh. Et alors, pour rejoindre ce programme Lire et faire lire, est-ce que vous recherchez encore des bénévoles ?
Ah ben oui, on recherche des bénévoles parce qu'on a des structures qui attendent des bénévoles. Alors je pense là, parce que ça c'est tout récent, on a la Baconnière, où on aimerait bien qu'il y ait de nouveaux bénévoles qui viennent nous rejoindre. Laval, on serait aussi...
Sur le secteur de Laval, ouais. On en cherche énormément aussi. Ouais. On a toujours plus de structures éducatives qui viennent nous voir pour bénéficier de les référer. Et on est en manque cruellement de bénévoles.
Même un peu partout en fait sur le département. Faut pas hésiter à nous appeler, voilà.
Et alors où est-ce qu'on vous appelle ? Est-ce que c'est à l'UDAF ? Est-ce que c'est à la Ligue de l'enseignement ? Il y a un numéro en particulier ?
Alors c'est deux numéros. Ah ouais. Voilà, il y a deux numéros, c'est indifféremment Charlène ou moi-même. Alors pour ma part, c'est au 02 43 49 52 89, donc à l'UDAF. Et puis si les personnes n'ont pas mémorisé sur le site de l'UDAF ou de Lire et Faire Lire National, nos coordonnées sont accessibles via le site du National Lire et Faire Lire, les coordonnées des coordinations. Puis toi, Charlène ?
Moi, c'est le 07 49 62 66 61. Et sinon, vous appelez la Ligue de l'enseignement. Voilà. Et voilà, indifféremment, Céline ou moi, on reçoit tous les nouveaux bénévoles pour les rencontrer.
Et alors, peut-être une dernière question, ça implique combien de temps à peu près ? Est-ce que c'est variable, j'imagine, en fonction des disponibilités du bénévole ?
C'est ça, c'est variable. On est attentif à une forme de régularité parce qu'on parlait du lien, donc ça exige quand même la rencontre, au-delà de la rencontre ponctuelle. On est vraiment dans l'idée de tricoter du lien aussi au fur et à mesure du temps. Donc une forme de régularité. Par contre, il s'agit de bénévolat et nous, on est attentif à ce que les bénévoles, ce ne soit pas quelque chose qui vienne leur peser et qui est toujours un plaisir à aller. Donc ça peut être hebdomadaire, il y en a qui interviennent même plusieurs fois par semaine, et bimensuel aussi, c'est-à-dire tous les 15 jours, mais dans une forme de régularité. En tout cas, on rencontre tout nouveau bénévole, ça c'est important, pour être sûr qu'on est bien, qu'on est bien sur le même projet, voilà. Et ensuite, on collecte les disponibilités de ces bénévoles et on essaie de les mettre en lien avec une structure. Toujours, on a le souci de que les bénévoles soient au plus proche de leur domicile. Hein, on fait ça avec eux. Voilà.
Bien, merci. Merci à toutes les deux d'avoir été avec nous aujourd'hui. Ça a été un plaisir de pouvoir parler de ce programme, donc Lire et Faire Lire. Dans quelques instants, l'émission continue avec la rencontre annuelle du syndicat agricole, la Confédération Paysanne, avec les élus locaux. Mais tout de suite, prenons quelques minutes avec un groupe local que j'ai envie de partager avec vous. Il s'agit de Des Ailes et on écoute tout de suite You and Me, sorti cette année.
want to stop now? Take a breath now. You want to stop now?
On parle maintenant des principales préoccupations du syndicat agricole, la Confédération paysanne. Ça s'est passé vendredi dernier. C'était la rencontre annuelle avec les élus locaux, l'occasion de visiter la ferme La Grande Gaudrie à Saint-Ouen-des-Toits, mais surtout de mettre en lumière, comme je vous le disais, les principales préoccupations actuelles. Écoutez.
Thibaut Audouin, agriculteur à Chemazé, secrétaire de la Confédération paysanne. La Confédération paysanne, c'est un syndicat agricole, donc au service de ses adhérents qui sont agriculteurs, paysans. On a à peu près 120 agriculteurs adhérents en Mayenne. Ce qu'on défend, c'est l'agriculture paysanne. C'est une agriculture qui produit des produits de qualité, principalement pour l'alimentation des Mayennais. On fait très attention à respecter aussi tout l'environnement qu'on a autour de nous. Notre objectif, c'est de garder un maximum d'agriculteurs en Mayenne. Aujourd'hui, en France, on est 380 000 agriculteurs et notre objectif, c'est qu'on soit demain 1 million.
Et donc aujourd'hui, on est à Saint-Ouen-des-Toits pour la rencontre annuelle que vous organisez avec les élus Stéphane Durand.
C'est ça, on fait ça une fois chaque année avec tous les élus du département qui résident soit à l'Assemblée nationale, au Sénat ou les collectivités locales également. Ils tiennent à cœur à venir et en général, ils répondent présents parce qu'on leur propose de vraiment discuter sur une ferme, donc sur un lieu concret, on va dire. On choisit souvent deux thèmes qui nous sont chers et qui sont, on va dire, dans l'actualité. Et régulièrement, en fait, c'est les mêmes thèmes qui reviennent parce qu'on est préoccupé par la baisse du nombre de fermes. Mais là, aujourd'hui, c'était vraiment d'axer sur le foncier et le revenu, de comprendre pourquoi est-ce qu'il y a moins de fermes aujourd'hui et les remèdes à trouver.
Sur le foncier, le constat qu'on fait, c'est qu'il y a de moins en moins d'agriculteurs, de moins en moins de paysans. Pourquoi ? D'abord, parce que l'accès au foncier n'est pas facile. On a beaucoup de fermes qui disparaissent. Il y a aussi des gros montages sociétaires qui permettent à des gros agriculteurs d'exploiter beaucoup, beaucoup d'hectares. On a l'exemple d'Arnaud Rousseau, président de la FNSEA, qui exploite 1700 hectares avec 4 sociétés. Alors qu'il y a, et en Mayenne notamment, des porteurs de projets qui ont du mal à accéder aux fonciers. Donc voilà, c'est ces points-là qu'on voulait dénoncer aujourd'hui. On a aussi l'exemple, pas très loin de Château-Gontier, dans le Maine-et-Loire, sur la commune de Denay, de 4 jeunes porteurs de projets qui ont un projet d'installation agricole en vache allaitante, en maraîchage et en pin, et qui se sont vus refuser l'attribution d'une centaine d'hectares pas plus tard qu'il y a 15 jours. Donc la Confédération paysanne se mobilisait à Angers la semaine dernière à la Chambre d'agriculture pour dire que voilà, c'était pas normal que des jeunes n'aient pas accès au foncier. La SAFER, en l'occurrence, a préféré mettre le foncier à des agrandissements de structures qui sont déjà grosses. Donc l'accès au foncier, c'est un vrai frein à l'installation. Pour renouveler les agriculteurs qui partent à la retraite, il faut permettre aux jeunes qui arrivent de trouver du foncier. C'est hyper important.
Pourquoi, en fait, vous voyez un danger ou un risque dans ces exploitations qui ne cessent de grossir?
Donc l'agriculture paysanne, c'est plutôt des fermes qu'on appelle à taille humaine. Et c'est quoi l'intérêt des fermes à taille humaine? C'est que souvent, elles mobilisent moins de capitaux. Demain, je veux m'installer. C'est plus facile de reprendre une ferme en agriculture paysanne parce qu'elle est moins grosse, parce qu'il y a moins de bâtiments, il y a moins de matériel. Donc elle est moins chère à reprendre. Et elle sera aussi sans doute plus facile à conduire techniquement.
Il y avait aussi donc aujourd'hui la question des revenus. Quelles sont peut-être les grandes lignes que vous avez voulu défendre aujourd'hui?
En fait, on a surtout voulu défendre là, le manque de revenus en élevage. On voit la disparition de l'élevage dans toutes les zones de France, mais même en Mayenne, donc une terre pour autant d'élevage. Mettre en avant que c'est une production qui n'a pas été aidée, qui a demandé souvent beaucoup, beaucoup de sacrifices au niveau travail pour les exploitants, donc ils se sont bien souvent découragés. Aujourd'hui, les fermes se sont tellement agrandies qu'ils ont maintenant le choix de pouvoir vivre peut-être d'une autre production moins contraignante, par exemple des cultures. Et donc, ils ont arrêté, dans quelques cas, l'élevage. Donc, le manque de revenus, c'est parce que les prix ont toujours été trop bas. Les filières ont profité de la bonté des agriculteurs, d'être courageux, donc de travailler, et puis finalement d'arriver à gagner un petit peu leur vie, mais en sacrifiant leur vie privée.
Alors sur la question du revenu, on peut s'appuyer sur l'exemple de Lactalis. Il y a quelques semaines, il annonçait la diminution de sa collecte de 150 millions de litres de lait dans la région. Donc c'est essentiellement en Vendée et en Maine-et-Loire. Donc là, clairement, il disait « Aujourd'hui, je ne gagne pas assez d'argent à faire de la poudre de lait. Donc j'arrête de collecter le lait d'une centaine de fermes, même plus que ça, en Vendée. » C'est absolument insupportable. C'est-à-dire, c'est des territoires, des paysages où on n'aura plus d'élevage demain si ces éleveurs-là ne sont pas repris. Et la semaine dernière, cette semaine même, il annonce que dans le Morbihan, il va payer le lait le même prix aux producteurs bio que celui qui est payé en conventionnel. Donc voilà, nous, pour la Confédération paysanne, que ce soit en conventionnel ou en bio, c'est le même combat. Et ce qu'on demande, c'est que l'État garde son rôle de régulation. Dans les années 2015, l'État s'est désengagé à la demande de la FDSEA, de la FNSEA notamment. Il y a eu la fin des quotas laitiers. Et donc, on a donné les pleins pouvoirs aux industriels sur la collecte, sur le prix du lait. Et donc aujourd'hui, on essuie les plâtres de ça, c'est-à-dire que les industriels, quand ils ne gagnent plus assez d'argent, ils peuvent dire « voilà, je ne collecte plus ». Et demain, c'est nos paysages qui sont menacés, puisque si on perd l'élevage, et c'est des revenus, c'est des familles qui vont souffrir un peu des bons vouloirs des industriels. Donc il faut que l'État reprenne la main sur la régulation.
Aujourd'hui, vous interpellez les élus, mais qu'est-ce que le citoyen lambda, lui, peut faire pour soutenir ses agriculteurs locaux?
Alors nous, on est organisé en structure. Donc nous, on est un syndicat, la Confédération paysanne, et nos adhérents sont uniquement des agriculteurs, des paysans. Mais la Confédération paysanne, il y a quelques années, elle a permis la création de l'ADERM et plus récemment de la SIAP. La SIAP, c'est la coopérative d'installation en agriculture paysanne. Et on a aussi la DERM qui fait de l'accompagnement aux porteurs de projets. Donc c'est des structures dans lesquelles les consommateurs ou les gens qui veulent s'engager sur ces sujets, dans lesquelles ils peuvent s'impliquer, filer des coups de main. Donc oui, les choses qu'ils peuvent faire pour nous aider, forcément, c'est d'acheter les produits des paysans qui produisent en Mayenne. Et on a aussi l'objectif à la Confédération paysanne de créer une association qui s'appelle les Amis de la Conf. Parce qu'effectivement, nous, on n'est pas beaucoup aidés par la Chambre d'agriculture, par les institutions. Et donc financièrement, c'est beaucoup de bénévolat. On a aussi une animatrice qui travaille chez nous. Mais voilà, on est preneur aussi de coups de main, qu'ils soient financiers, matériels, de soutien en tout genre.
Elle est singulière, cette voix dans l'émission, et vous et moi avons plaisir à la retrouver chaque mardi. C'est celle de notre chroniqueur Donatien qui nous emmène aujourd'hui en balade.
Août était le mois qui ressemblait le plus à la vie, écrit Pierre Adrian dans l'un de ses derniers romans intitulé « Que reviennent ceux qui sont loin ». Vœux pieux, tant les proches finissent d'une manière ou d'une autre par s'éloigner jusqu'à parfois disparaître. Août serait donc une métaphore de l'existence. Les premiers jours sur la plage, on prend des précautions, on cherche ses repères, pas encore habitués au vent, à la température de l'océan, au sable qui colle aux chaussettes. À la mi-août, on a laissé tomber les chaussures et on s'élance en sandalettes, voire pieds nus, sur l'estran pour plonger dans les vagues aguerries par les bains des jours précédents. On se sent plein d'énergie, on en oublie le temps jusqu'à ce qu'on remarque, fin août, les jours qui déjà raccourcissent. On va quitter le Finistère et le bord de mer pour réintégrer la Mayenne. Enfant, Donatien prolongeait les vacances sur cette rivière tranquille, accompagné par son père qui l'emmenait sur l'eau à bord d'un canoë. Son père, pour qui manier la pagaie, était tout un art, tout autant que la technique d'accostage sur la berge. « Oh, mon bateau !» chantait en silence le cœur de Donatien, qui se prenait pour un nouvel aventurier, passant sous les saules et faisant fuir les ragondins. Avant que ne vînt l'automne, chaque dimanche de septembre était l'occasion d'une promenade et d'un pique-nique au bord de l'eau, ambiance, famille et ritournelle. Quand on se promène au bord de l'eau, on a le cœur plein de chansons, l'odeur des fleurs nous met tout à l'envers et le bonheur nous saoule pour pas cher. Sur les bords de la Mayenne, du côté de Pruyé, Donatien n'avait rien à envier aux gens de Nogent. Il fallait ensuite patienter tout l'hiver pour reprendre au printemps les promenades sur le halage. Alors, Donatien se remémorait les poèmes appris au collège puis au lycée. Le romantisme de Lamartine, la sensibilité d'Apollinaire, la musique de Verlaine ou encore l'espièglerie de Victor Hugo et de cette chanson douce dans laquelle Rose et ses 20 ans attendent désespérément du jeune poète un baiser qui se fait attendre. Les jours rallongent, le chemin de halage là-bas rejoint la mer, évoquant ce poème de Théophile Gautier et les berceaux qui restent à quai, tandis que les bateaux s'éloignent vers le large et les horizons qui leurrent. Au rythme de ses pas, Donatien se laisse emporter par la ballade de Jules et Jim et se demande si elle s'écrit avec 2 L ou 1 seul, la ballade de l'existence.
Elle avait des bagues à chaque doigt, des tas de bracelets autour des poignets, et puis elle chantait avec une voix qui sitôt m'enjola. Elle avait des yeux d'opale, qui me fascinaient. Il y avait le vague de son visage pâle, de femme fatale qui me fut fatale, de femme fatale qui me fut fatale. On s'est connu, on s'est reconnu, on s'est perdu de vue, on s'est reperdu de vue, on s'est retrouvé, on s'est réchauffé, puis on s'est séparé. Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie. Je l'ai revu un soir, aïe aïe aïe, ça fait déjà un fameux bail, ça fait déjà un fameux bail. Au son des banjos, je l'ai reconnu, ce curieux sourire qui m'avait tant plu, sa voix si fatale, son beau visage pâle, mais mûr plus que jamais. Je me suis saoulée en l'écoutant, l'alcool fait oublier le temps, je me suis réveillée en sentant des baisers sur mon front brûlant, des baisers sur mon front brûlant. On s'est connu, on s'est reconnu, on s'est perdu de vue, on s'est reperdu de vue, on s'est retrouvé, on s'est séparé, puis on s'est réchauffé. Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie. Je l'ai revue un soir, ah là là, elle est retombée dans mes bras, elle est retombée dans mes bras. Quand on s'est connu, quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue, quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Alors tous deux, on est repartis dans le tourbillon de la vie. On a continué à tourner, tous les deux enlacés, tous les deux enlacés, tous les deux enlacés.
C'était Le tourbillon de la vie de Jeanne Moreau. Merci Donatien pour ce très beau moment. L'agité du local s'arrête ici. Merci à Céline et à Charlène d'être venues nous parler du programme Lire et faire lire aujourd'hui en studio. Merci Donatien, toujours toujours un plaisir. Ces balades dans lesquelles tu nous emmènes chaque semaine. Moi je vous quitte, mais de belles émissions arrivent sur les ondes de l'autre radio et votre soirée ne commence pas n'importe comment puisqu'elle commence à 19h avec les sorcières. Et oui, elles sont de retour pour la 4e saison et c'est Cécile qui anime Bégum, la première. Anna vous présentera Radio Bégum, la radio lueur d'espoir afghane faite par et pour les femmes. Ygrine nous fera un gloubi-boulga de monstres, et Morgane, éprise de liberté, suivra Thelma et Louise dans le Grand Canyon. Ça fait beaucoup d'informations d'un coup. La seule chose que je peux vous dire, c'est allumer votre poste à 19h parce que sorcière, c'est évidemment une bonne humeur contagieuse et je ne suis pas totalement neutre quand je vous dis ça. À 21h, ça continue très bien pour les amateurs de rap français avec l'émission Frères de chaussures qui est animée par Fatshu. Moi, je vous dis à demain pour une nouvelle émission de l'Agité du Local. Nous serons avec Gérard Baudinier qui nous parlera de la journée mondiale du refus de la misère. D'ici là, soyez doux et dites-le à voix haute. Ce n'est jamais de trop et c'est une vraie manière de faire du bien.
Bon, c'est fini.
Tout de même, ça passe vite.